Si elle se lève, épisode 93 du 25 novembre 2024. Au sommaire, à la veille de la Journée mondiale du sida, un état des lieux. Avec la docteure Cécile Tremblay, le chercheur Nicolas Chaumont, le directeur général de la COXIDA, Ken Monteith, et la directrice générale de Maison Plein Cœur, Nancy Labonté, et aussi avec mon comparse de toujours, alors à l'arc-en-ciel se lève, Gengis Grenier, infirmier, et on va parler aussi de GPA à la Transatlant Queer avec Christophe Gérard à Paris.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
Le 1er décembre, c'est la Journée mondiale du sida, décrétée en 1988 par l'Organisation mondiale de la santé, et le droit de tenir aussi cette manifestation chaque année a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations unies. Le VIH est la première grande pandémie jamais décrétée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, bien avant la COVID-19. En fait, ça date des années 80. Hein, quand même. D'après les chiffres de l'ONU SIDA 2024, mais c'est pour l'année 2023, il y a 39,9 millions de personnes qui vivaient avec le VIH. 1,3 million de personnes ont été infectées par le VIH en 2023. 630 000 sont mortes de maladies liées au SIDA en 2023. 30,7 millions de personnes avaient accès à une thérapie antirétrovirale. C'est important de le dire, là, parce qu'on va y arriver tout à l'heure. 88,4 millions de personnes ont été contaminées par le VIH depuis le début de la pandémie. 42,3 millions de ces personnes ont succombé à des maladies liées au sida depuis le début de la pandémie. Santé Canada estime que 62 790 personnes vivaient avec le VIH au pays à la fin de 2020. Et on n'a toujours pas trouvé de traitement curatif, mais on y travaille. Salut, Gengis Grenier.
Bonsoir, ça va bien, Denis Martin?
Ça va très bien. Alors, encore cette année, on fait l'état des lieux du VIH parce qu'on trouve que c'est important de le faire puis de faire le point sur où est-ce qu'on est rendu avec tout ça. Et avec toute notre brochette d'invités qui sont vraiment intéressantes. Alors, je vais faire le tour de la table. La docteure Cécile Tremblay du CHUM. Bonjour, bienvenue à l'émission.
Bonjour.
Et on reçoit aussi le chercheur Nicolas Chaumont.
Bonjour.
Et le directeur général de la COXIDA, qui est un organisme qui chapeaute une trentaine d'organismes communautaires. Et la directrice générale de Maison Plein Cœur, Nancy Labonté, bienvenue à l'émission.
Bonsoir.
Alors, on va commencer par, puis je pose la question, je vais ouvrir là-dessus, c'est quoi le portrait du VIH en 2024? Allons-y, de quoi ça a l'air?
Je vais briser la glace.
Oui.
Dans les, j'ai fait mes petites recherches sur Internet. Puis, il y a un pays que la croissance semble être plus importante que les autres. C'est quand on regarde leur proportion population versus leur proportion de nouvelles infections qui sont probablement sous-évaluées. Il y a un pays, un très grand pays sur cette planète qui est un joueur important sur la scène internationale qui, dans l'ensemble de leur population, leur population vivant avec le VIH aurait dépassé le 1%. C'est un pays avec une politique quand même assez agressive envers les populations queer et LGBT.
Et on parle de quel pays?
Le pays de la Russie!
Ah, ben oui!
Leur statistique serait vraiment, ce serait l'un des pays au monde où l'épidémie progresse le plus vite, entre autres nourri par l'usage de drogues injectables. Ils seraient, entre autres, les champions numéro un en ce moment, là, apparemment, sur la planète, de ce que j'ai pu décortiquer comme statistique.
Est-ce qu'on peut parler du Canada, peut-être, Cécile Tremblay? Oui, rapprochez-vous du micro.
Oui, je pense qu'on a encore l'impression que parce qu'on ne parle plus beaucoup du VIH et puis qu'on a parlé beaucoup de la COVID depuis les dernières années, que c'est disparu, le VIH au Canada. Alors, ce n'est pas le cas. Puis malheureusement, dans n'importe quelle bataille, quand on n'avance pas, on recule. Alors, ce qu'on a vu au cours de la dernière année, des deux dernières années, je dirais, c'est une augmentation des cas de nouvelles infections ou de nouveaux diagnostics de VIH. Puis il faut faire la différence entre les deux parce que souvent, ce sont des personnes qui ont attrapé le VIH depuis un certain nombre d'années, mais qui n'avaient pas reçu de diagnostic Et oui, ça peut être le cas. Quand les gens se font infecter par le VIH, ça peut être asymptomatique. Ils peuvent ne pas s'en apercevoir. On voit aussi qu'il y a des populations migrantes qui arrivent dans de pays où il y a de fortes populations affectées par le VIH et puis qui n'ont pas eu de diagnostic dans leur pays, puis nous arrivent ici, parfois en état très, très malade, très avancé, en phase sida. Et ça, on voit ça depuis quelques années, 2-3 ans, qu'on ne voyait plus ça depuis des dizaines d'années. Alors, c'est une préoccupation qu'il faut remettre un peu sur la sellette et puis s'assurer qu'on fasse ce qu'il faut pour reprendre le contrôle de la situation.
J'avais l'impression, en regardant les chiffres de la santé publique, l'INSPQ, c'est ça, qu'il y a un nouveau groupe qui commence à être très important dans les infections. On parle des personnes hétérosexuelles qui seraient même... Ken?
Mais je pense que ça fait depuis des années que la part de cette population augmente dans les chiffres. On ne comprend pas nécessairement c'est qui, mais évidemment, si on a beaucoup de femmes vivant avec le VIH, de femmes hétérosexuelles, on va voir des hommes hétérosexuels même si on ne les voit pas. Je pense que c'est un peu difficile. On ne comprend pas nécessairement c'est qui exactement ces personnes. Je pense que dans les statistiques, quand on a des partenaires de personnes qui appartiennent à différents groupes, on les compte dans les groupes.
Oui.
Mais donc, un partenaire d'un homme bisexuel serait compté avec les hommes. Donc, le facteur de risque, les hommes, qu'on appelle.
Ouais. Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Mais il y a aussi, parce que la docteure Tremblay a quand même sorti quelque chose d'important, beaucoup de personnes issues de l'immigration. Et puis je trouve que c'est important d'en parler, puis d'en parler correctement, parce qu'il y a un problème, il y a un risque de stigmatisation. Je ne sais pas qui veut aller sur la question là-dessus.
Mais je pense qu'il est important de le situer. Donc, cette année, en 2022, c'est la dernière année pour laquelle on a des statistiques, c'était le plus grand groupe. Mais c'était une arrivée massive après 2 ans de frontières fermées.
Oui.
Donc, il faut mettre ça en contexte. Mais aussi, on parle du nombre de personnes. On ne parle pas du nombre total de personnes nouveaux arrivants.
Oui.
Donc, et comme pourcentage de ce grand groupe, c'est faible. Donc, c'est pas au niveau de la Russie, juste pour le nommer. Il faut situer ça. Et certaines personnes arrivent déjà, donc c'est une bonne nouvelle pour moi que les gens arrivent ici. Ils étaient refusés dans le passé à cause du fardeau qui est représenté sur le système au Canada. Mais on peut avoir maintenant des immigrants réguliers mais vivant avec le VIH, qui sont accueillis. Et ils arrivent normalement en santé. Ils arrivent traités. Et c'est une chose qu'on voit, c'est pas tout le monde, c'est pas les demandeurs d'asile, mais les immigrants indépendants peuvent venir vivant avec le VIH.
Avant d'aller plus loin, je pense que vous vouliez dire quelque chose, Cécile?
En fait, Ken a raison. Il y a une bonne proportion de ces gens-là qui suivaient un traitement déjà dans leur pays d'origine, puis tout ça. Mais il y a l'autre portion de cette population-là dont la situation est beaucoup plus triste, qui ont vécu des parcours migratoires assez épouvantables, qui nous arrivent en très mauvais état de santé. Et donc, on commence à les prendre en charge et puis à leur offrir un traitement. Moi, je n'ai pas vu autant de cas de sida à l'hôpital.
On parle de sida, c'est des gens qui sont vraiment avancés dans leur
maladie avec des CD4 très, très bas, qui ne connaissaient pas leur diagnostic avant, et puis que là, ils l'apprennent là, quand ils ont une maladie qui est très sérieuse. Donc, il ne faut pas sous-estimer et le besoin d'amplifier le dépistage des gens. Parce que ce n'est pas juste les populations migrantes, là. Même la population locale ici, le pourcentage de diagnostics avec des CD4 relativement bas et plus de la moitié des nouveaux diagnostics, ce sont des gens avec leur système immunitaire qui est déjà très affaibli. Donc, ça veut dire qu'ils ont l'infection depuis longtemps.
Mmh.
puis donc qui n'ont jamais eu accès, ils ne se sont pas crus à risque ou ils n'ont jamais passé de test de dépistage. Et puis, ce que ça nous dit, c'est si on faisait des dépistages de façon plus systématique, on éviterait à ces gens-là d'avoir une détérioration de leur état de santé, de leur système immunitaire. On pourrait leur offrir le traitement plus précocement, puis le pronostic serait meilleur.
On a l'impression que ça n'existe plus, le VIH. On n'en parle pas, on n'en a pas parlé, sauf le premier décembre.
Ben, je vais juste rajouter un chiffre ou deux, là, oui. Même si ça fait beaucoup de chiffres. Mais c'est vrai qu'en 2022, au pays, au Canada, c'est 25% d'augmentation des nouveaux diagnostics, oui. Ce qui est en partie peut-être attribué, en effet, à ces nouvelles populations qui sont arrivées. Mais les deux champions des provinces dans lesquelles il y a le plus de nouveaux cas, c'est Saskatchewan et Manitoba. On a aussi un problème avec les personnes autochtones, dépister la maladie dans ces communautés-là et les traiter également. Et puis un dernier chiffre peut-être, c'est que, tu l'as dit au début, Denis Martin, on a 39,9 millions de personnes sur la planète qui vivent avec le VIH. On n'a jamais eu autant de personnes avec le VIH sur Terre qu'en 2024. Et la raison à ça, c'est évidemment parce qu'on a des traitements qui fonctionnent, donc ça prolonge leur vie. Mais pour dire que le VIH, ce n'est pas du tout fini. Encore une fois, 2024, c'est l'année où il y a eu le plus de personnes sur Terre qui ont le VIH. Et ça ne va pas s'arranger avec les années.
Est-ce qu'on fait assez pour s'occuper des personnes qui vivent avec le VIH? Je pense que j'en serai la question à Nancy parce que tu travailles directement auprès des personnes qui vivent avec le VIH.
Oui, ben, au niveau du communautaire, on travaille assez fort pour aider les personnes qui vivent avec le VIH et qui ont des problèmes personnels dus à la stigmatisation. Les effets de la stigmatisation sur la vie sociale, psychologique, même sur la santé... sont reconnus scientifiquement. Nous, à Maison Plein Cœur, on accueille les personnes qui vivent avec le VIH et qui rencontrent des problèmes personnels. On a aussi tout un programme d'activités pour briser l'isolement social et que les personnes puissent bâtir une communauté ensemble.
Mais le problème dans tout ça, c'est toujours le financement de ces programmes-là.
Oui, le financement à Maison Plein Cœur, comme beaucoup d'organismes communautaires, on vit avec des subventions à projet qui ne financent pas tous nos programmes. On a, par exemple, le programme des mères, des mamans.
Des soutiens aux mamans qui ont le VIH, mais qui sont enceintes, là, c'est ça?
C'est ça. Ouais. On a quand même 47 % de nos participants qui sont des participantes, qui nous sont référées par Sainte-Justine. Ces mamans-là, ils se retrouvent dans le groupe dont on parlait tout à l'heure, des mamans issues de l'immigration, qui sont dépistées quand elles arrivent à Sainte-Justine, puis qui sont référées à Maison Plein Cœur par la suite. Ce programme-là n'est pas du tout subventionné. On fonctionne avec les dons.
Ken, je te voyais dans tes yeux que tu voulais parler.
Je peux dire que systématiquement, tous les organismes communautaires sont sous-financés. Mais aussi, je souligne que le Québec sous-finance la santé publique généralement. Mm-hmm. Et donc, on a besoin de plus d'investissements du gouvernement et plus d'engagement vers la santé publique. Il y a une lueur d'espoir qu'il y a une couple de semaines, le ministre de la Santé a dit que la prévention est importante. Donc, c'est la première fois qu'il l'aurait dit. Parce que normalement, quand on parle système de santé dans les médias, c'est les salles d'urgence et les listes d'attente pour les opérations. Et c'est tout ce qu'on parle. On ne parle pas de prévenir, on ne parle pas d'autres façons de traiter et d'assurer le bien-être de la population.
Oui, Dr. Tremblay.
J'aimerais renchérir là-dessus parce que on a des outils de prévention extrêmement efficace à notre disposition. On n'a pas encore de traitement curatif, mais pour prévenir, on a des médicaments qui sont à près de 100 % efficaces pour prévenir si on le donne à des populations à risque, si c'est prêt adéquatement. Puis il y a de plus en plus de nouveautés là-dedans avec, on va voir bientôt sur le marché, des médicaments qui peuvent se donner une fois aux 6 mois, puis qui sont efficaces pour prévenir la maladie. Alors, quand Ken parle de prévention puis de lueur d'espoir c'est que la prévention, ça ne tombe pas des nues. Il faut l'organiser. Il faut organiser un programme qui va faire en sorte qu'on va pouvoir aller trouver ces personnes-là qui sont à risque, les dépister, leur offrir cette prévention-là. Puis si on était capable de faire ça, là, on aurait un potentiel énorme à atteindre les objectifs de 2030 d'arrêter la transmission du VIH au Québec. Mais ça, il faut le structurer dans un programme de prévention du VIH auprès des gens qui sont le plus à risque.
Jenji, je vais te lancer là-dessus parce que oui. Toi, tu travailles en prévention. Tu fais les deux?
Je fais tout. Oui.
Comme infirmier dans une clinique où on traite les gens qui vivent avec le VIH. Comment, toi, personnellement, est-ce que tu vois une amélioration?
J'écoutais justement Dr. Cécile Tremblay, nos invités ici autour de la table. Je me rejoins beaucoup dans ce qu'ils disent, dans ma pratique un peu de tous les jours. Tu sais, Dr. Tremblay parlait des objectifs de 2030. Est-ce qu'on va y arriver de plus en plus qu'on avance dans le temps, de plus
en plus? Je vais t'interrompre. Les objectifs de 2030, c'est les objectifs de l'ONU-SIDA qui veulent que 95% des personnes qui vivent avec le VIH connaissent leur statut, donc ont été dépistées. 95% de ces personnes-là sont sous traitement antirétroviral et 95% ne sont indétectables, donc ne peuvent pas transmettre. Alors, c'est juste pour être clair quand même, je te laisse.
Pour stopper la transmission du VIH, quand on regarde les chiffres de 2020 au Québec, il y avait à peu près quelques 200 nouveaux cas diagnostiques pour 2020. 2022, ça l'a presque doublé. Pourtant, oui, il y a la pandémie qui a le dos large, mais tu sais, il y a une question d'éducation, il y a une question aussi d'immigration qui a été abordée autour de la table. Moi, quand je traite des immigrants qui viennent nous consulter en urgence parce qu'ils ont besoin de traitement, oui, il y en a qui arrivent qui sont déjà traités, ils ont réussi à arriver avec un parcours du combattant, ils sont atterris quelque part au Mexique, ils ont traversé les États-Unis avec des douaniers corrompus pour les amener jusqu'à, qui ont dû payer de leur poche une somme astronomique pour se faire directement déposer au chemin Roxfam. C'est arrivé. C'est pas que je veux différencier les hommes et les femmes, mais souvent, les immigrants qui arrivent dans cette situation-là sont des hommes. Ils sont arrivés tellement calculés au chemin Roxfam, tandis que je vois chez les femmes, des femmes qui ont été déplacées dans la guerre en Ukraine, en Palestine. Puis ces femmes-là, quand que tu voyages seule, puis que tu es une femme âgée entre 14 et je dirais même jusqu'à 50, 55 ans, bien ces femmes-là ont quoi pour négocier s'ils n'ont pas d'argent dans leur poche? Ils sont souvent victimes d'agressions sexuelles, de viols. Quand on parle d'éducation aussi, quand on est en mouvement dans une planète où les choses vont pas super bien, est-ce que les lubrifiants sont accessibles? Est-ce que les condoms sont accessibles? Moi, ce qui me fait capoter un petit peu au Québec, c'est que on a accès à des autotests de VIH. Pourtant, on peut se les commander sur Amazon, c'est accessible à la classe moyenne. L'autotest salivaire, l'autotest sanguin devrait être plus accessible. Comme Dr. Cécile Tremblay dit, c'est quelque chose qui doit s'organiser. Pourquoi qu'ici, dans une civilisation qu'on dit de pays développés, pourquoi qu'on réussit à doubler nos nouveaux cas d'infection au VIH quand on a nos professionnels, on a des organisations, on a des institutions de santé qui fait qu'on pourrait prévenir le tout en ce moment? Visiblement, pas qu'on est en échec, mais on va pas nécessairement dans la bonne direction. C'est un peu mon opinion. Parmi l'immigration, je trouve que les cas de femmes qui arrivent ici sont victimes d'une violence inouïe. J'ai en tête une patiente que j'ai en suivi régulier qui m'a raconté son épopée là, d'arriver sur dans un container 2 mois en mer, arriver aux États-Unis, se faire livrer comme un animal, littéralement, au chemin Roxfam. Elle s'est tout fait voler, ses pièces d'identité, son passeport, sa valise. Il a fallu qu'elle négocie en échange sexuel beaucoup de choses. Elle sait pas quand est-ce qu'elle a contracté le VIH. Est-ce qu'elle l'avait directement de son pays d'origine ou c'est directement d'un viol, d'un échange sexuel sans condom pour arriver jusqu'ici? Quand je regarde un peu la clientèle que j'ai, mettons, née au Québec, qui vient nous consulter pour des nouveaux cas VIH, des fois, j'ai affaire à des jeunes qui arrivent, ils sont positifs à tout, ils sont positifs à toutes les infections classiques, gonorrhée, chlamydia, VIH, syphilis, puis ils me regardent avec un désarroi, puis c'est quoi, puis j'attrape ça comment? Je m'adresse à quelqu'un qui est âgé dans la vingtaine, mais elle est passée où, son éducation? Qu'est-ce qu'on fait dans nos écoles? Les professeurs, apparemment, sont mandatés à l'école secondaire de se charger de cette éducation-là. Je me demande des fois vraiment où est-ce qu'on s'en va.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Discussion.
Eh bien, c'est une discussion justement sur l'état des lieux du VIH ici au Canada et dans le monde. On n'a pas beaucoup parlé du monde, mais on en parle un petit peu parce que l'intervention de Gengis tout à l'heure, quand il parlait des personnes immigrantes qui arrivent ici, souvent qui, surtout quand on parle des femmes, doivent souvent négocier leur passage par des faveurs sexuelles ou qui ne savent pas quand elles ont attrapé ça. Justement, dans le monde, est-ce qu'on fait assez? Parce que c'est plate à dire, on a beau dire que nous, au Canada, ben oui, on a des médicaments, mais sauf que si on gère pas, on l'a appris avec la COVID, si tu ne gères pas la pandémie ailleurs dans le monde, ben reviens mordre par en arrière. Hein?
Mais ce qui m'inquiète en ce moment, c'est l'avenir de cette réponse internationale. Parce que on a commencé à traiter beaucoup mieux dans les pays du Sud et on a vu que les nouvelles infections ont diminué par la suite parce que I égale I fonctionne pour tout le monde. Donc, indétectable égale intransmissible. On n'a pas couvert l'ensemble des populations, mais on progresse. Mais maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Donc, on a un nouveau président aux États-Unis. C'est l'année où on renouvelle le financement du Fonds mondial. Mm-hmm. On a aussi un programme présidentiel aux États-Unis, PEPFAR, qui finance les traitements pour beaucoup de personnes dans les pays du Sud. Et est-ce que tout ça est en danger?
Bien, il y a surtout que le secrétaire oui. à la santé, c'est un complotiste. Ça ne va pas bien, là.
C'est ça. Donc, on peut beaucoup s'inquiéter. On a fait des progrès, mais tout ça démontre que nous avons des outils. Ils ne sont pas juste pas déployés suffisamment. Même ici au Québec. Donc, on a des outils, mais on a des barrières. Et donc, des barrières comme l'argent que ça coûte pour acheter ces médicaments, la partie qu'on paye. Il y a des barrières dans le sens que le dépistage qui n'est pas disponible. On doit multiplier les pistes vers le dépistage et enlever les barrières au traitement.
L'accès aux médicaments, là, parce que tout le monde sait qu'il y a à peu près une partie qui est comme entre 10 et 20 qui est assumée par la personne qui prend le médicament. À moins d'être très, très pauvre, elle doit payer cette part-là. Mm-hmm. Et ça peut être une barrière au traitement quand on doit choisir entre payer le loyer ou payer le médicament. Ça commence à être un problème. Cécile, je pense que vous voulez réagir.
Ben, alors qu'il y a d'autres provinces au Canada où ce n'est pas le cas, où tout est remboursé par le gouvernement. Alors ça, c'est un frein à l'accès au traitement. On a parlé beaucoup au niveau international. On dit qu'on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc, il y a 75 % des gens qui ont besoin d'antirétroviraux qui les reçoivent, mais il y a 25 % qui ne les reçoivent pas. Puis quand on a une masse, on parle de millions de personnes, là. Quand on a une masse de cette ampleur-là, 25 % de millions de personnes, on ne peut pas arrêter la transmission, on ne peut pas arrêter l'épidémie. Il faut vraiment baisser ça beaucoup plus pour arriver à nos objectifs de 2030. Donc, ça, c'est vrai à l'échelle internationale, mais c'est vrai ici au Québec. Puis on a beaucoup parlé, avec raison, des populations migrantes, mais la plus grande hausse des cas au Québec, c'était encore chez les hommes gays. Mmh. Avec les moyens que l'on sait qui sont disponibles, les différentes cliniques qui prennent en charge la santé de ces hommes. Malgré tout ça, on voit une augmentation des cas. Malgré la PrEP, la prophylaxie pré-exposition dont je vous parlais tantôt, qui existe, elle ne se rend pas là où elle devrait se rendre. Alors, moi, je pense que c'est là l'importance. Quand on n'avance pas, on recule.
Ouais.
Puis, on a avancé un petit peu avec la PrEP. Là, il y a eu une relaxation, puis la COVID y a été pour quelque chose, sûrement. Mais il faut qu'on reprenne le taureau par les cornes. Et puis ça va se faire dans un programme structuré de prévention du VIH avec plusieurs éléments, incluant le dépistage, incluant l'offre de PrEP, incluant l'aide psychosociale. dont les gens ont besoin, puis que Madame de la Maison de plein cœur, que j'apprécie beaucoup, là, parce qu'on a des parmi nos patients qui bénéficient de ces services-là, ça prend un package deal, un programme. Je m'excuse les anglicismes là, qui viennent de ma.
C'est pas un problème.
Mais complet, multifacettaire, qui n'est pas nécessairement si coûteux que ça, là, comparativement au coût qu'on va économiser à long terme d'éviter toutes ces nouvelles infections.
Oui, je pense que je dois ajouter, je ne serais pas vrai à mon organisme si je ne disais pas qu'il y a des questions de droit aussi. Il y a d'autres choses qu'on doit protéger et des choses qu'on doit vraiment interdire. Nous voyons des gens qui se font refuser des assurances parce qu'ils prennent la PrEP.
Mm.
Donc, pourquoi ça? Donc, pourquoi qu'on laisse aux compagnies d'assurance de poser ces questions quand on sait qu'une personne traitée, une personne vivant avec le VIH traitée ou une personne sur la PrEP ne va pas mourir avant ses amis. Donc, il y a des choses, des pratiques où on n'a pas le courage de les interdire, on n'a pas le courage de les confronter pour mettre fin à ces enjeux qui freinent aussi l'accès au traitement, l'accès au dépistage. C'est très important d'aborder, comme Dr. Tremblay dit, sur tous les fronts. On doit avancer sur tous les fronts, sinon on recule.
On a une petite minute, on pourrait peut-être parler aussi du fait qu'il y a toujours et encore, on n'a toujours pas réglé la question de la criminalisation du VIH.
C'est ça, et malheureusement, donc avec l'état du gouvernement fédéral en ce moment, on n'aura pas de changement sur ce front avant les élections, et croyez-moi que c'est pas les conservateurs qui vont changer des choses dans le bon sens.
On pourrait aussi aller au gouvernement provincial qui ne gère pas très bien les cours d'éducation sexuelle qui s'en donnent pratiquement pas dans les écoles. Hein. On va faire, nous, une petite pause et puis on revient après pour continuer la discussion. On va parler aussi de l'état de la recherche parce que ça aussi, ça avance. Alors, je vous rappelle que nous avons avec nous la docteure Cécile Tremblay du CHUM, le chercheur Nicolas Chaumont de l'Université de Montréal, Ken Monteith, directeur général de la COXIDA, et Nancy Labonté, directrice générale de Maison Plein Cœur, et notre chroniqueur santé, Gengis Grenier. On revient tout de suite après la pause.
L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. Discussion.
Il nous reste 10 minutes pour continuer cette conversation fort intéressante sur l'état des lieux du VIH. Nous recevons la docteure Cécile Tremblay du CHUM, le chercheur Nicolas Chaumont de l'Université de Montréal, Ken Monteith, directeur général de la COXIDA, et Nancy Labonté, directrice générale de Maison Plein Cœur, et notre chroniqueur santé, Gengis Grenier. Ben là, c'est peut-être le temps de parler. Ça fait un bout de temps qu'on essaie de trouver un traitement curatif au VIH, puis je sais que ça vous tient à cœur, Nicolas. Ça, on y arrive. Est-ce qu'on va y arriver?
C'est l'heure de l'espoir.
Je vais poser la question qui tue, mais c'est peut-être pas approprié dans ce cas-ci.
En fait, non. Est-ce qu'on va y arriver? Moi, je continue à penser que oui, sinon je ferai autre chose de ma vie. Là. Du coup, je crois qu'on va y arriver. La question que je n'aime pas, c'est quand, parce qu'on n'a pas de réponse à cette question du quand.
Ouais.
Y a des progrès toujours extraordinaires qui se font. Brièvement, aujourd'hui, on a 7 personnes sur Terre qu'on considère comme définitivement guéries du VIH parce qu'ils ont eu accès à cette fameuse greffe de cellules, ou greffe de moelle. On dit c'est des personnes qui avaient un cancer et qui ont reçu une greffe de moelle pour guérir leur cancer et qui se sont débarrassées du VIH en même temps. Ce qu'il y a de nouveau, c'est 2 choses. 1, il y en a de plus en plus. Maintenant, tous les ans, on a un nouveau cas d'une personne qui est guérie du VIH par cette procédure, qui, encore une fois, est très dangereuse, qu'on ne peut pas donner à tout le monde, qui est réservée uniquement à des personnes qui ont le cancer. Mais l'autre nouvelle, qui à mon avis est plus importante, c'est qu'auparavant, les seules personnes qui guérissaient avec cette greffe, bénéficiait d'un donneur très spécial qui a eu une mutation très bizarre qu'on ne trouve pas beaucoup, qui protège naturellement contre le VIH. Et maintenant, même des personnes qui reçoivent une greffe de vous et moi, de personnes qui n'ont pas cette super mutation, peuvent se débarrasser de leur virus. Donc ça ouvre des super perspectives en fait, pour comprendre comment est-ce qu'on pourrait éradiquer le virus.
Donc, le problème, c'est qu'une greffe de moelle osseuse, disons qu'il faut que quelqu'un fasse un don, c'est pas évident.
On kidnappera pas personne.
Non, et puis, je vous déconseille de le faire, on a encore un risque de mortalité très élevé à travers ces procédures, donc c'est vraiment réservé à des personnes qui ont besoin de ça pour guérir de leur cancer. Là, il ne s'agit pas de faire ça chez toutes les personnes qui ont le VIH. Heureusement, on a d'autres stratégies que ça.
Ah oui, allons-y.
Donc, il y a plusieurs stratégies. Les deux grandes stratégies, on va dire, c'est où on attaque le virus, où on renforce le système immunitaire. Et le mieux, c'est de faire les deux en même temps. Donc, attaquer le virus, c'est quoi? C'est aller le chercher là où il se cache, donc dans ces fameux réservoirs qui sont les tissus profonds. Ça peut être votre intestin, votre cerveau, où le virus se cache au cours des trithérapies. Et puis, essayer d'aller le déloger de ces réservoirs-là. Et puis maintenant, vous avez sans doute entendu parler du CRISPR-Cas9, qui est la révolution en génétique des 10 dernières années, qui sont des ciseaux moléculaires qui peuvent aller spécifiquement couper une séquence génétique, et en particulier donc la séquence du VIH. Et il y a beaucoup de recherches maintenant qui se développent là-dedans, parce qu'on sait ça depuis longtemps, mais on se demandait comment donner cet outil au corps et surtout l'envoyer là où c'est important. Et on a fait beaucoup de progrès là-dessus. Et ce progrès, il est dû, entre autres, à la recherche qui a été faite sur les vaccins pendant la COVID. On dit souvent que les vaccins COVID viennent de 15 ans de recherche en VIH, et c'est vrai. Et puis là, maintenant, les vaccins COVID tellement utilisés re-renseignent le VIH, parce qu'on se rend compte que la façon dont on les donne, ces fameuses particules de lipides qui sont dans les vaccins, peuvent être utilisées comme des outils pour délivrer ces ciseaux moléculaires. Donc ça, c'est très encourageant. Il y a d'autres, je ne vais pas rentrer dans les détails, là, d'autres stratégies pour aller déloger ces réservoirs. Et puis finalement, le système immunitaire. Donc ça, évidemment, on voudrait transformer le VIH comme un virus qu'on a tous les jours et qu'on contrôle très bien. On est tous infectés par des virus de la famille des herpès. Vous avez des feux sauvages, il disparaît, il revient, et puis votre système immunitaire le contrôle. Donc on voudrait transformer le VIH en un virus de l'herpès que le système immunitaire pourrait contrôler. C'est difficile, mais là encore, il y a plein de progrès qui sont faits. Il y a des nouveaux essais thérapeutiques qui montrent des résultats très encourageants. On attend les résultats d'un essai qui s'appelle RIO, avec des fameux anticorps neutralisants, qui sont des petites bibites qui vont neutraliser le virus, qu'on aura probablement en mars lors d'une grande conférence. Donc, ça bouge. Voilà. Donc, même si on n'a pas encore la guérison, et je ne vous dirai pas quand on l'aura, ça bouge et c'est ça qui est important.
J'ai une question. Oui. Peux-tu prendre le relais? Les personnes qui vivent avec le VIH, sont beaucoup d'entre eux sont vieillissants, puis y en a beaucoup d'entre eux qui ont été ostracisés et maltraités par les professionnels de la santé il y a 40 ans. Là, moi, je me fais beaucoup demander, puis j'entends beaucoup ça comme question qui résonne. Est-ce que ça vaut vraiment la peine, une fois que je vais mourir, de donner mon corps à la science?
Alors ça, c'est pas moi qui vais répondre à cette question. Est-ce que ça vaut la peine scientifiquement? Est-ce qu'on apprend quelque chose?
Est-ce qu'il y a des choses encore à apprendre?
Bien sûr que oui. On a une étude qui est une étude canadienne qui est financée par le consortium CanCure, dans laquelle on demande à des personnes qui vivent avec le VIH s'ils veulent bien donner leur corps pour qu'on aille justement chercher ces fameux réservoirs. Quand on fait des biopsies pour aller chercher où il y a du virus qui persiste chez des personnes vivantes, on est quand même limité dans ce qu'on peut, les échantillons qu'on peut obtenir. Si je te demande un morceau de cerveau, c'est sûr que tu ne peux pas me donner ça de ton vivant. Donc, l'avantage, j'allais dire, des études d'autopsie, c'est qu'on a une image complète de tout le corps. On peut regarder c'est quoi l'organe le plus important. En fait, la réponse à ça, on l'a déjà un peu, c'est qu'il y en a beaucoup des organes qui sont importants. Donc, il va falloir qu'on trouve une stratégie qui va attaquer plusieurs de ces organes en même temps.
Ben, moi, je pense qu'on devrait faire un dernier tour de table. Puis la question que je vais vous lancer... Parce que c'est vrai que les temps ont changé. On voit ce qui se passe aux États-Unis. C'est quand même le plus grand fournisseur d'argent pour la recherche et tout, pour le traitement. Il y a d'autres pays dans le monde aussi où c'est plus ou moins ouvert. Est-ce qu'il y a pas encore de l'espoir là-dedans? Je sais pas. Je vais commencer par Nancy. T'sais. As-tu de l'espoir, Nancy, que les choses s'améliorent en 2024, 2025, 2026, 2027?
Mon Dieu, les problèmes sont structurels. Il y a beaucoup de travail à faire à tous les niveaux. Est-ce qu'on a encore d'espoir? Il faut en avoir. On n'a pas le choix. Que dire de plus? On marche à l'espoir. Surtout, moi, du côté du communautaire, c'est la seule façon qu'on peut surmonter les difficultés comme organisme qui vit dans la pauvreté, qui aide les personnes. dans la pauvreté. Alors, oui, on fonctionne sur l'espoir.
Puis je pense que je vais te lancer là-dessus. Maison Plein Cœur a de la difficulté à joindre les deux bouts parce que le financement a même été réduit, le financement de à la mission. Vous êtes en campagne de financement, puis c'est pas évident de trouver de l'argent, là.
Non, c'est pas évident, mais je vais faire mon petit spot publicitaire. Vas-y. Je vous invite à maisonpleincoeur.org,
oui.
En un mot, maisonpleincoeur.org. Vous appuyez sur le bouton « Faites un don en ligne ». Et puis, c'est le temps de notre campagne de financement annuelle. Ça va nous faire plaisir de vous envoyer aussi un bon reçu de charité en échange de votre don. Merci. Et
le faire en ligne autant que possible, parce que par la poste, c'est compliqué.
Oui, la poste, on dit ça.
Ken, rapidement.
Oui, moi, j'ai de l'espoir. Je suis une personne vivant avec le VIH. J'étais une de ces personnes diagnostiquées tardivement. Et 27 ans plus tard, je suis là. Je suis en santé, je travaille à temps plein. Donc, le VIH a changé. Et je pense que déjà, c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est quelque chose qu'on doit faire connaître à la population. Que le vivre avec le VIH en 2024, c'est pas vivre avec le VIH ou mourir du sida des années 80-90. Et le plus que les gens comprennent ça, le plus qu'ils vont ne pas hésiter à aller se faire dépister.
Oui.
Il faut comprendre que se faire dépister, c'est ouvrir la porte soit vers la PrEP, soit vers le traitement. Et c'est comme ça qu'on va mettre fin au VIH. On continue à faire des progrès sur les traitements, les traitements de prévention et les traitements pour les gens qui ont le VIH.
Oui.
C'est de plus en plus facile.
Nicolas?
Il y a de l'espoir, évidemment. L'espoir, pour moi, il se nourrit de travail et de lutte. Donc, le travail, c'est le travail au labo. C'est le travail pour, comme le disait Cécile tout à l'heure, que les stratégies de prévention soient accessibles à tout le monde. C'est la lutte, évidemment, dans les organismes communautaires. Et puis, la lutte aussi pour faire du lobbying auprès de nos États pour que la recherche soit toujours financée, parce que les traitements de demain, c'est la recherche d'aujourd'hui.
Ouais. Puis, de plus en plus important, Dr Tremblay?
Oh, moi, j'ai toujours de l'espoir. J'ai surtout de l'espoir parce que les personnes qui vivent avec le VIH ont toujours été les acteurs les plus importants dans la lutte pour mettre fin à l'épidémie. Puis on voit qu'ils sont encore impliqués. Et puis on va avoir besoin de ça. On a besoin de tous les joueurs pour arriver à nos résultats. Mais j'ai de l'espoir parce que je le sais que concrètement, là, on a les outils présentement dont on a besoin pour arriver à 2030. On fait un appel, un cri du cœur à nos gouvernements pour nous entendre, pour nous convier à une rencontre, pour mettre sur pied un programme très précis, très explicite, pas très coûteux, mais que juste bien le structurer, là, ça nous permettrait d'arriver à 2030.
Mot de la fin pour toi, Gengis.
Moi, quand je vois d'aussi belles personnes autour d'une table qui sont impliquées soit dans le communautaire ou dans la recherche scientifique, il va toujours avoir de l'espoir. Quand il y a du monde bienveillant auprès de des gens qui sont vulnérables, les choses, on parle de recul dans les dernières années, mais quand on regarde le travail somme toute des 40 dernières années, on est quand même dans une belle lancée.
Mais moi, j'aimerais vous remercier tout le monde. Puis je vais même me permettre de renchérir sur ce que tu as dit, Ken, parce qu'il y a une autre personne qui vit avec le VIH autour de la table, c'est moi. Et à 63 ans, je continue encore à faire de la radio puis à contribuer. Puis ça vous dit que oui, les médicaments fonctionnent et il y a de l'espoir. Merci toute la gang. Merci Nancy Labonté, directrice générale de Maison Plein Cœur. Ken Montes, directeur général de la Coccident. Nicolas Chaumont, chercheur à l'Université de Montréal. Merci Dr Tremblay, Cécile Tremblay, au CHUM. Et merci à toi, Gengis Grenier.
Au plaisir.
Merci.
Transatlant Queer, des nouvelles d'outre-mer.
Oh, voilà. Ben oui, tout ce beau monde-là vient de sortir du studio. Ça fait que ça fait un petit peu de bruit, mais c'est bon. On est là. On va parler donc à cette chronique Transatlantique. On va rejoindre Christophe Gérard qui est à Paris. Ben, faites un petit peu l'histoire de Paris, mais pour pas mêler les gens, on va juste dire que tu es dans la région de Paris.
OK, c'est ça.
À Mérou, mais quand même.
Dans la grande région parisienne.
Ben, c'est fou, 50 kilomètres, c'est quand même pas si loin que ça. Avec les trains chez vous, ça se fait bien.
Oui, ouais. Mais c'est considéré comme la province, c'est pas Paris, en fait, là où j'habite.
Bon, alors, mon provincial. On va parler de GPA, Gestation pour autrui, avec le Sénat italien qui vient de voter une loi qui punit lourdement les parents d'enfants nés par la GPA à l'étranger.
Oui, alors le mois dernier, je te parlais d'une circulaire mise en place en France et qui compliquait un peu la vie de parents d'enfants nés par GPA à l'étranger. Ben, l'Italie a fait bien pire que ça et va beaucoup plus loin, hein, puisque le 16 octobre dernier, le Sénat italien a validé un texte qui avait été adopté un an auparavant, en juillet 2023, par l'Assemblée nationale italienne, et qui, en fait... Donc, vise à interdire la gestation pour autrui aux citoyens italiens qui auraient eu recours à cette méthode à l'étranger. Donc, la proposition de loi portée par Fratelli Italia, donc Frères d'Italie, hein, le parti d'extrême droite de la chef du gouvernement, a été adoptée à 84 votes contre 58, et chose à préciser, hein, sans aucune abstention.
Et qu'est-ce que ça prévoit ce texte-là?
Eh bien, en fait, avec cette nouvelle loi, les couples qui se rendent à l'étranger pour avoir recours à une GPA sont passibles de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement et également une amende pouvant aller de 600 000 euros à 1 million d'euros.
Et quand on sait que c'est beaucoup de personnes de nos communautés qui font appel à la GPA, ils sont vraiment à risque. Mais là, cette loi-là n'est toujours pas applicable, hein?
Non, parce que pour qu'elle soit promulguée, il est nécessaire qu'elle soit signée par le président de la République, le démocrate chrétien Sergio Mattarella, mais ce n'est toujours pas le cas pour l'instant.
Et qu'est-ce que dit l'opposition en Italie?
Alors, si l'on en croit le député de gauche Riccardo Maggi, en fait, il assure que l'opposition va se lancer dans un combat en présentant notamment un recours devant la Cour constitutionnelle. Il déclare qu'ils vont continuer à se battre pour annuler cette règle, mais aussi pour légaliser la GPA de solidarité en Italie. Et il précise que le corps des femmes et leur liberté leur appartiennent, pas à Giorgia Meloni, pas à ce gouvernement et d'ailleurs à aucun gouvernement à travers le monde.
Juste pour répéter, là, Giorgia Meloni, c'est la première ministre d'Italie et elle appartient à la frange de droite. En fait, je pense qu'il se disait néo-fasciste, hein? C'est quelque chose.
C'est ça.
Oui, je continue, Christophe.
Oui, alors, donc en fait, les propos que je viens de citer tranchent vraiment avec ceux de Eugenia Rosella, qui est ministre de la Famille, de la Natalité, et ça ne s'invente pas, de l'égalité des chances, qui estime quant à elle que les gens ne sont pas des objets, que les enfants ne s'achètent pas, et que l'on ne peut pas vendre ou louer des parties du corps humain, et que la pratique aberrante de la GPA est un délit et ne peut plus être contournée grâce à cette loi, qu'elle considère d'ailleurs en la matière que le vote du Sénat place l'Italie à l'avant-garde des nations en ce qui concerne ces lois.
Oh là 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 là. Bon, les lois anti-queer, anti-LGBTQIA+, de Giorgia Meloni sont saluées par l'extrême droite un peu partout sur le continent européen. Peut-être
ouais,
bientôt aux États-Unis aussi, tant qu'à faire, ouais.
Ouais, ouais, et puis alors c'est un petit monde qui se connaît, qui se côtoie, qui s'apprécie, hein. Donc on peut considérer Giorgia Meloni comme une figure de proue, hein, des lois anti-LGBTQIA+, en Europe. Depuis son arrivée au pouvoir, elle a multiplié les prises de position contre la communauté queer, et elle se présente comme une mère chrétienne défendant les valeurs de la famille traditionnelle. Elle a des prises de position qui lui ont valu d'ailleurs, hein, le soutien de l'extrême droite, comme je le disais, à travers le continent européen. Récemment, c'est le président turc Erdogan qui l'a remercié pour sa position qui soutient la notion de famille et qui défend les valeurs familiales face aux défenseurs LGBT. Alors, on le sait, hein, elle est également proche du Premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui préside actuellement l'Union européenne, le Conseil de l'Union européenne. La Hongrie, on le sait, hein, n'est pas un des pays de l'Union européenne les plus en avance qui concerne les droits des personnes LGBTQIA+.
Wow! Mais quand même, l'Italie a été affichée, hein, sur la situation des droits humains.
Tout à fait, hein, puisque récemment, il y a un rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance qui a dénoncé la situation des droits humains en Italie. Elle estime qu'il existe une xénophobie de plus en plus présente dans le discours public, et ça va plus loin, hein, puisqu'il y a également un discours politique aux connotations de plus en plus clivantes, que ce soit à l'encontre des réfugiés, mais également des citoyens italiens d'origine étrangère, et bien évidemment des personnes LGBTQIA+. Et en ce qui concerne justement les personnes de la communauté queer, l'Italie n'interdit toujours pas explicitement la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, et les personnes LGBTQIA+, subissent des préjugés et des discriminations dans leur vie quotidienne. Et c'est un phénomène qui s'est accentué à l'arrivée de Giorgia Meloni à la tête du gouvernement. Cette dernière s'en prend en effet ouvertement à la bête noire de la droite conservatrice extrême, hein, l'hypothétique lobby LGBT, en prenant notamment des mesures visant à réduire les droits des familles LGBT. L'année dernière, pour information, il y avait une décision de justice qui visait à retirer le nom du deuxième parent, de la deuxième mère, pour les enfants nés par PMA en Italie.
Mais pourtant, excuse-moi, je te lance là-dessus, mais pourtant, il me semble que le Parlement européen n'a-t-il pas des lois ou adopté des lois qui interdisent ce genre de discrimination envers les communautés LGBTQIA+.
C'est très compliqué. Alors, il y a la possibilité de se pourvoir devant la Cour de justice européenne, mais les dernières lois qui ont été votées, c'est plus une reconnaissance de l'identité de genre pris dans certains pays, hein, puisque j'en avais parlé le mois dernier.
Ouais.
Un homme trans avait vu son changement d'état civil reconnu dans son pays d'origine, la Roumanie, alors qu'il avait entamé sa transition en Angleterre. Mais en ce qui concerne la GPA et la PMA, sont des sujets qui sont très, j'allais dire touchy, en tout cas, qui sont très clivants en matière de politique et même de pensée en Europe. Donc, c'est un peu compliqué encore.
Oui, on va passer donc de la PMA, de la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui, la GPA. On va parler de l'association Stop Homophobie qui a lancé une action devant le Conseil constitutionnel pour obtenir un meilleur accompagnement des victimes. On parle de victimes, j'imagine, de crimes homophobes, là.
Tout à fait. Donc en fait, l'association Stop Homophobie, c'est une association importante chez nous en France, hein, puisqu'elle défend les droits et les personnes LGBTQIA+. Et parmi ses actions, elle accompagne régulièrement des victimes d'agressions et de harcèlement en se portant partie civile lors des procès. Et par contre, elle conteste une loi qu'elle se trouve trop restrictive, et donc elle a décidé en effet d'intenter une action devant le Conseil constitutionnel.
De quelle loi on parle ici, là?
Alors, il s'agit en fait d'un article qui s'appelle l'article 2-6 du Code de procédure pénale, hein, qui encadre les conditions dans lesquelles les associations LGBTQIA+ peuvent se constituer partie civile lors des procès. Donc, selon le texte, les associations peuvent agir dans certains cas, comme ça, par exemple les discriminations ou les atteintes à l'intégrité physique. Quand on parle d'intégrité physique, on parle de meurtre, de violence, d'actes de torture ou de barbarie. Par contre, on le sait, hein, dans les procès dans lesquels le caractère LGBT-phobe est reconnu, il y a d'autres infractions qui sont souvent jugées. Et la loi exclut les interventions des associations telles que Stop Homophobie dans des cas de séquestration, de vol et d'extorsion de fonds, même si ces actes sont souvent motivés par l'orientation sexuelle ou l'identité de genre des victimes. Donc, depuis quelques années, ici en France, mais je pense que le phénomène est mondial, il y a de plus en plus de guet-apens via des applications de rencontres et à l'issue, donc, alors attends, parce que j'ai perdu mon fil. Dans ce genre d'affaires, en fait, l'accompagnement des associations est donc restreint. C'est pourquoi Stop Homophobie a saisi le Conseil constitutionnel d'une question qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité. Et donc, c'est à Rennes, le 13 novembre dernier, que le Conseil constitutionnel s'est penché sur cette question. Alors, il y avait des avocats de l'association qui qui ont présenté leurs arguments. Hein. Donc, selon eux, la présence des associations LGBT, souvent salvatrices, elle contribue à une meilleure appréhension par les juges des modes opératoires, mais également du mobile homophobe qui motive le passage à l'acte. Et elle permet également de faire œuvre de pédagogie auprès des jurés, des accusés et de la Cour pour reconnaître la circonstance aggravante d'homophobie, ce qui est rarement le cas, hein, il faut le dire ici en France. C'est pourquoi, en fait, refuser aux associations LGBT ce droit d'intervention revient à une rupture non justifiée de l'égal accès à la justice et donc à l'égalité devant la loi.
Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'en pense le gouvernement français ?
Alors, quand il s'agit de questions prioritaires de constitutionnalité, hein, le gouvernement est toujours représenté. Et là, en l'occurrence, cette fois-ci, c'était par Benoît Cam-Guilhem, qui est chargé de mission pour les questions constitutionnelles auprès du secrétariat général. Et donc, il a contesté toute rupture d'égalité et se base sur l'exemple des associations de lutte contre le racisme qui, tout comme les associations LGBT, n'ont pas la possibilité de se porter partie civile pour l'ensemble des infraction pénale aggravée. Et par ailleurs, en fait, le gouvernement estime que le nombre d'affaires poursuivies pour au moins l'une des trois infractions, donc séquestration, vol ou extorsion de fonds, en raison de l'orientation sexuelle ou d'identité de genre, est limité. En gros, il n'y a pas assez de guet-apens homophobes en France pour justifier d'un changement de règle. Ouais. Donc, l'avocat hein, de Stop Homophobie, qui s'appelle Maître Boué Diaconeau, lui a souligné que les chiffres d'actes anti-LGBTQIA+ démontrent qu'on est en face à un phénomène sociétal qui s'aggrave. Les victimes sont de plus en plus la cible d'atteinte aux biens compte tenu de leur orientation sexuelle. Et on se base en fait sur le fait que ce sont des personnes, on va dire... Enfin, pour lesquels en fait la commission d'un crime est facilitée. Donc, si on se base sur une enquête qui a été publiée par le magazine Têtu, la réalité en fait c'est au moins un guet-apens homophobe par semaine en France. Et il a noté d'ailleurs que de nombreuses victimes ne portent pas plainte. Et comme je le disais tout à l'heure, le caractère aggravant d'homophobie est rarement reconnu en France.
Oui, c'est assez difficile pour des gens qui sont victimes d'un guet-apens parce que c'est humiliant. C'est arrivé ici, derrière, au Québec. Il y a eu quelques cas récemment qui ont été médiatisés, mais on ne connaît pas les autres cas qui ne le sont pas parce que les gens ne portent pas plainte. Alors, c'est quoi la décision là, du Conseil constitutionnel finalement?
Ben, la décision est tombée récemment, hein, puisque c'était vendredi dernier, vendredi 22 novembre. Le Conseil constitutionnel s'est basé sur les textes de loi existants, sur la déclaration des droits de l'homme et sur les réquisitoires des différentes parties. Et elle a déclaré que les dispositions légales actuelles étaient conformes à la Constitution. En gros, le caractère anticonstitutionnel de l'article 2-6 du Code de procédure pénale n'a pas été reconnu. Et par conséquent, il n'y aura pas de changement de règle.
Ah, bon, alors on va changer de sujet. Parlons maintenant de cyberharcèlement. 7 personnes ont été arrêtées dans l'affaire Thomas Joly.
Oui, alors si la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques a conquis le monde entier, on en a parlé à plusieurs reprises, on le sait, certains haineux ont également décrié des tableaux de la cérémonie, tels que celui qui s'appelait Festivité, et dans lequel ils ont vu une version queer, donc inadmissible, hein, de la scène. Donc, ça leur a donné une opportunité supplémentaire de se lancer une nouvelle fois hein, dans leur sport favori, le harcèlement via les réseaux sociaux. Donc, à l'issue de la cérémonie d'ouverture, de nombreux artistes queer ont reçu des menaces de mort et des commentaires LGBT-phobes via les réseaux sociaux. C'est le cas du metteur en scène Thomas Joly, hein, qui a expliqué être la cible sur les réseaux sociaux de messages et d'injures critiquant son orientation sexuelle, mais également ses origines israéliennes supposées, à tort, bien évidemment, puisqu'il n'est pas juif. Mais ce caractère a été également dénoncé par les haineux. Donc, des faits qui ont été reconnus assez graves, hein, puisque le parquet de Paris a ouvert une enquête pour cyberharcèlement le 31 juillet.
Une enquête donc qui a porté ses fruits ?
Tout à fait, hein, puisque le 22 octobre, on a appris que 7 personnes ont été interpellées par les enquêteurs de l'Office national central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine.
Maintenant, on parle de quel profil là, des personnes qui ont été accusées?
Alors, il s'agit de 6 hommes et d'une femme âgée de 22 à 79 ans, donc un large spectre en niveau âge. Toutes les générations étaient donc participantes à cette campagne de haine en ligne. Selon une source proche de l'enquête, un certain profil était inquiétant. L'un des suspects est d'ailleurs considéré comme un professionnel de la haine. Et on compte également parmi les gardés à vue un candidat des suppléants lors des dernières élections législatives en France sur l'étiquette Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. C'est étonnant.
Oui. Il nous reste à peu près 40 secondes. Qu'est-ce que sera la suite de ces arrestations?
Alors, il y a 5 des personnes qui vont être convoquées devant le tribunal correctionnel de Paris et donc elles devront répondre de menaces de mort, d'injures aggravées sur l'orientation sexuelle et religieuse. Et elles encourent jusqu'à 7 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
Wow. Ben, on va se reparler le mois prochain parce qu'il y avait d'autres sujets dont on veut discuter, dont évidemment le chemsex, mais on en parlera le mois prochain. Merci beaucoup, Christophe Gérard, à Les Rues, pas loin de Paris.
Oh oui, et à très bientôt, Denis Martin.
À très bientôt.
Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @dmchabotauteur et sur LinkedIn, Denis Trait d'Union, Martin Trait d'Union Chabot.
Et on peut aussi me suivre sur le nouveau réseau social qui n'est pas si nouveau que ça, mais Blue Sky. Bientôt, je vais vous donner comment me rejoindre là-dessus parce qu'on a tous quitté Twitter, vous savez pourquoi. Alors, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 93, en ce 25 novembre 2024. N'hésitez pas donc à communiquer avec nous. Merci à toute l'équipe à la recherche, Godéric Trob et Marie Massé. Merci Maurice Bolduc à la mise en onde, Gerlure Melette, chef de contenu numérique, et toute l'équipe, Jean-Sébastien Liberté, Philippe Lapointe et Marjorie Théodore. Je m'appelle Denis Martin Chabot et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, même poste.